Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Joséphine Becker, sur une musique de l'adjudant Christian Caligaro et un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi. Joséphine Becker, une aviatrice audacieuse. La chanteuse Joséphine Becker est avant-guerre une immense star du music-hall. En 1940, après la signature de l'armistice, elle ne peut se résoudre à la défaite de la France. Elle entre en résistance afin de recueillir de précieux renseignements qu'elle transmet à Londres.
Je m'appelle Joséphine Freda MacDonald, mais vous me connaissez probablement sous mon nom de scène, Joséphine Becker. Je suis née le 3 juin 1906 aux États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri. Pour sortir de la misère, j'épouse en 1921 Willie Becker, dont je garderai le nom de scène, tout en allant tenter ma chance comme danseuse à Broadway. En septembre 1925, je fuis ce pays qui pratique les discriminations raciales pour rejoindre la France afin de vivre ma passion pour le chant et la comédie. En 1931, je suis une star connue, notamment pour ma chanson fétiche « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». En 1937, j'épouse l'homme d'affaires Jean Lyon et deviens ainsi française. En 1939, lorsque le bruit des bottes se fait de nouveau entendre en Europe, je mets mon talent au service de la France. Je parcours ainsi le front pour divertir les soldats. Les aviateurs du groupe de chasse 1-2 m'accueillent ainsi avec un grand enthousiasme sur leur base aérienne. Je fais le pitre devant eux ou le long de la ligne Maginot avec mon singe et mon accordéoniste. À cette époque, Jacques Apted, chef du contre-espionnage militaire, recherche des célébrités dont la liberté de déplacement peut aider à recueillir des renseignements. Je lui déclare donc que je garderai à la France une reconnaissance éternelle. La France est douce, il y fait bon vivre, parce qu'il n'y existe pas de préjugés racistes. De plus, ne suis-je pas devenue l'enfant chéri des Parisiens ? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien et je suis prête à leur donner ma vie. Ma première mission est de rencontrer l'ambassadeur d'Italie pour sonder les intentions de Mussolini sur le début de la guerre. Un sourire, quelques compliments et du champagne me permettent le plus souvent d'obtenir les renseignements nécessaires. Mais après l'armistice, je refuse de chanter dans Paris occupé. Je suis recrutée dans le corps des infirmières pilotes secouristes de l'air et me consacre alors au secours des réfugiés. Lorsque j'entends à la radio l'appel du général de Gaulle, je suis bouleversée. Il porte un message qu'on craignait de ne jamais entendre et qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes. Je décide de rejoindre cette cause. Mais en octobre 1940, je n'ai plus d'argent et ne souhaite pas emprunter. Et puis, on ne se fait pas payer quand on travaille pour la France. J'accepte donc une série de représentations à Marseille, qui est alors en zone libre. En décembre, une congestion pulmonaire m'oblige à m'exiler en Afrique du Nord pour recevoir des soins. Cette maladie m'offre ainsi un bon alibi pour quitter le territoire. En effet, la Gestapo, qui me soupçonne déjà de travailler pour Londres, me surveille constamment. Loin de la métropole, il me sera plus facile de tromper leur vigilance. En janvier 1941, j'arrive à Alger, où je donne un gala pour les troupes françaises. En fait, c'est très pratique d'être Joséphine Becker. Dès que je suis annoncée dans une ville, les invitations pleuvent. Moi, j'affectionne plus particulièrement les ambassades et les consulats qui fourmillent de renseignements intéressants. À l'ambassade de France à Lisbonne, je peux ainsi collecter des informations capitales pour Londres et la France libre. À mon retour, je passe la douane avec un sourire. Qui peut se douter que mes partitions contiennent les plans des installations allemandes dans le sud-ouest ? Vraiment sympathique cette encre. D'autres documents sont épinglés dans mon soutien-gorge. De retour au Maroc, Je suis hospitalisée pour de longs mois. Malgré tout, depuis mon lit d'hôpital, je continue à organiser des réunions avec les services de renseignement américains, anglais ou français. Ma chambre devient un véritable bureau de coordination. Modestement, je participe ainsi à améliorer la réputation du général de Gaulle auprès des Américains. Le 8 novembre 1942, alors que je termine ma convalescence, les Alliés débarquent enfin en Afrique du Nord. Je me précipite à leur rencontre, au grand désespoir des médecins. Malgré une blessure à l'abdomen, je décide de chanter pour nos libérateurs. Je suis amaigrie, mais je tiens tête à mon médecin. Bon sang, si De Gaulle n'était pas têtu, nous serions tous en camp de concentration. Cette plaie me fait horriblement souffrir, mais je joue devant les soldats américains, ce qui me vaut les félicitations du général Clark, commandant en second des troupes américaines. Cependant, lors du banquet donné en mon honneur par les Américains, je constate avec effroi qu'il n'y a aucun militaire de couleur invité. Je m'adresse alors à l'état-major américain. « Permettez-moi d'inviter des amis musiciens noirs. Il est important de prouver que noirs et blancs sont égaux dans l'armée américaine. Ou alors, ce n'est pas la peine de faire la guerre à Hitler. » Mes concerts ont un tel effet sur le moral des GI qu'un officier américain me propose de signer un contrat de music hall. Je refuse ce contrat en lui faisant remarquer que je suis un soldat de la France libre qui chante bénévolement pour les soldats. Pourtant, mes finances sont au plus mal. Je suis un véritable panier percé lorsqu'il s'agit de donner de l'argent aux œuvres sociales de l'armée de l'air et de la Croix-Rouge. Lors de mes galas, je partage le quotidien des soldats et il n'est pas rare que je passe des nuits dans le désert, sous la tente ou à la Belle Étoile, entouré par des carcasses de chars et les cris des hyènes qui déterrent des cadavres. Cette proximité avec le front me permet de collecter quelques renseignements. Le 23 mai 1944, je signe un acte d'engagement comme sous-lieutenant rédactrice de première classe. Je suis affectée à l'état-major général de l'air dans la direction des formations féminines. Le 6 juillet 1944, je suis détachée au service des liaisons secours et un an plus tard, au bataillon de l'air 117 de Paris. Je porte volontiers ce bel uniforme bleu d'une armée de l'air renaissante. Une fois la libération de la France obtenue, je chante de nouveau en métropole et mes cachets sont versés au profit de la France combattante. Le 5 octobre 1946, on me décerne la médaille de la résistance avec rosette. Je reçois aussi ce que j'appelle ma Légion d'honneur, une lettre personnelle signée du général.
Chère mademoiselle Joséphine Baker, c'est en toute connaissance de cause et de tout cœur que je vous adresse mes sincères félicitations pour la haute distinction de résistance française qui vous a été attribuée. J'ai su et beaucoup apprécié, naguère, les grands services que vous avez rendus dans les moments les plus difficiles. Je n'ai été, par la suite, que plus touché de l'enthousiasme et de la générosité avec lesquelles vous avez mis votre magnifique talent à la disposition de notre cause et de ceux qui la suivaient.
Cependant, pour la vraie Légion d'honneur, je dois attendre le décret qui me nomme chevalier en décembre 1957, en plus de la Croix de guerre 1939-1945. Avec cette remise tardive, je paye là sans nul doute les conséquences de mon caractère entier, de ma condition de femme et de mes engagements politiques. Mais comment en vouloir à la France ? Car j'ai éternellement deux amours, mon pays et Paris.
Mon pays et Paris.